Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. On va dire les choses simplement, notre invité d'aujourd'hui, c'est sa rentrée. Bonjour Le Triomphe, premier long métrage, signé par lui seul et boum, le box-office en folie. Ce qui lui permet, pour rester dans la métaphore piscinière, de passer directement du pédiluve, ce petit bain de pied dégueulasse où les baigneurs laissent en suspension leur vieille peau et leur miasme psoriasique, au majestueux grand bain olympique où s'ébrouent les athlètes de haut niveau, ou moi. Tout ça donc en sautant directement la case Petit Bain, cet entre-deux humiliant dans lequel barbotent tant de malheureux qui rêvent de gloire et ne récoltent que du chlore. Oui, Gilles Lelouch n'a pas fait les choses à moitié. Premier essai transformé avec à la clé, brevet de maître nageur sauveteur du cinéma français qui peut lui dire merci. Certains pourraient s'en contenter et se reposer sur leur laurier, voire s'en faire un courbouillon en rajoutant un peu de thym. Pas Gilles Lelouch, c'est mal connaître l'animal qui seulement quelques semaines plus tard remet le couvert à l'affiche d'un film. Fort de son triomphe, font leur imaginer incarnant Alexandre le Grand, Napoléon ou le prince d'Aumale, lançant ses troupes pour l'assaut final de l'Asmalade Abdelkader. Eh bien non, il continue à nous surprendre avec un rôle tout en demi-teinte et émotion. Même Charline et son cœur de pierre ont été émus, c'est vous dire, dans l'excellent Pupille dont il va être question ici. Que lui manquait-il pour prétendre au nirvana absolu? Mais une invitation à Pop Pop Pop, bien sûr. C'est aujourd'hui chose faite.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Gilles Lelouch.
Bonjour, quelle consécration d'être parmi vous, je suis ravi.
Ça va, c'était assez élogieux comme introduction.
C'est formidable, j'ai adoré.
Il manquait rien.
J'ai trouvé ça assez juste finalement.
Très juste.
Oui, oui.
Et attendez, c'est pas fini parce que je me lève et je déclenche la Marseillaise.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Non, car nous ne recevons pas Gilles Lelouch. Aujourd'hui, nous recevons le citoyen d'honneur de la ville de Fontainebleau. Mais oui, là où l'empereur fit ses adieux, c'était encore mieux, non?
Oui, oui. Oui. Mais c'est en fait, j'ai grandi là-bas. Oui. J'ai passé toute mon adolescence, toute ma scolarité là-bas. Pourtant, qui était très tumultueuse. On peut pas dire que j'étais un garçon modèle. Mm-hmm. Et pour autant, on m'a effectivement décoré de l'insigne honorifique de citoyen d'honneur de la ville de Fontainebleau. Je suis assez fier, comme une sorte de petit Napoléon.
Très bien. C'est donc une émission un peu particulière, mais toujours fait penser à Napoléon.
Ah oui.
Votre profil, vous avez un profil napoléonien.
Et pourtant, moi, on m'a dit que je ressemblais plutôt à, comment il s'appelle, pas Che Guevara, l'autre.
Castro?
Oui.
Ah oui?
Oui.
Non, vous avez un profil napoléonien, mais le Napoléon, pas Bonaparte.
Le Napoléon sous courtisane?
Oui, voilà.
Je vous dérange pas? Non.
Non, non.
Ah, bonjour Charline Roux. Comment allez-vous Charline?
c'est
un peu ma Joséphine.
On a tendance à l'oublier.
Mais non, bonjour Charline. À mes côtés, voilà, celle qui a opté pour le dress code grand bain, regardez-la, tout en claquette, bonnet de bain et speedo, Charline.
Ça me va tellement
bien.
Bonjour
ma petite Charline. Mais oui, ça vous va.
Bonjour.
Gilles Lelouch, ici, il existe ici une question encore plus gênante qu'un speedo de taille trop petit, et cette question c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Alors, attendez, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle de votre bro, comme disent les millennials, Jean Dujardin. Écoutez.
La pop culture, ça pourrait être cette voix ce matin, là. Mm-hmm. Tu vois, la voix que j'ai là.
La voix un peu cassée.
Ouais, complètement. Mm-hmm. Bah, je suis au bout, là, tu vois, je suis au bout de ma vie.
Cet après-midi, parce que vous êtes complètement jetlagué.
Oui, exactement, cet après-midi, exactement.
Vous pouvez expliquer pourquoi, nos auditeurs, vous êtes tous.
Non, je veux pas du tout. Non, je suis pas là pour raconter.
Non,
je vais pas vous dire quoi que ce soit. Une
nuit un peu agitée, peut-être, non?
Non, ça n'a rien à voir. Ça pourrait être un rhume aussi. La pop culture, ça peut être un rhume aussi, Antoine Decote.
Voilà l'idée que Jean Dujardin se fait de la pop culture.
C'est pas mal cet art de répondre complètement à côté. C'est pas bête. Quand on est au bout de sa... Et donc au bout de sa vie, quoi, carrément. Quoi. C'est pas mal.
Bon, et pour vous, Gilles Lelouch, c'est quoi la pop culture alors?
C'est la culture. Mm-hmm. Pour moi, c'est la culture.
Avec un grand C.
Bah oui. Moi, en fait, en tout cas, c'est de là d'où je viens. Je suis un pur produit des années 80. Donc un pur produit de la radio FM, de la culture VHS, vidéo club, bref, de la pop culture dans tout ce qu'elle a de plus merveilleuse, quoi. Après, peut-être que il y a peut-être certaines déviances. Maintenant, j'ai le sentiment. Alors, et là, c'est là que je vais commencer à parler comme un vieux con, donc c'est compliqué.
Allez-y.
Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que la pop culture, par exemple, des années 70-80, voire 90, était un peu supérieure à celle des années 2000. Voilà, ça c'est sûr. Mais
En quel terme?
Ben, en termes de variété, en termes d'écriture, en termes de qualité de pop culture. Mais encore une fois, c'est un discours de vieux réac à deux francs.
Vous êtes plus Goonies que Stranger Things?
Je suis, bah oui. Mais étant donné que Stranger Things se veut des Goonies, et de petit fils, autant aller chercher l'original.
Vous auriez jusqu'à dire que la pop culture de ces années-là était plus inventive, plus créative, et qu'elle s'est formatisée
aujourd'hui. Ouais, je trouve aussi, ouais. Okay. Vraiment. Mais quand on regarde les blockbusters des années 80, ne serait-ce qu'américains, aujourd'hui on fait des ressuscés de Batman, de Superman, des préquels, et puis des suites et des ressuites. Avant, on inventait quand même des choses extraordinaires, quoi que ce soit Retour vers le futur, Indiana Jones, enfin bref, une conversation qu'on a tous.
Bien. Oui. Moi, c'est une réponse qui me convient, en tous les cas, certes plus fournie que celle de
Jean Dujardin.
Parce que je ne suis pas encore tout à fait au bout de ma vie, ce qui ne serait tardé.
La pop culture, ici, on baigne dedans, sans mauvais jeu de mots, et on va continuer à en parler juste après le morceau Jalousie, signé de la jeune belge Angèle. Alors,
magnifique.
Angèle, c'est aussi le péché mignon de notre fougueux rédacteur en chef.
Ah, j'adore.
Qui est Eric Cabourget. Est actuellement en consultation judiciaire. Angèle.
Jalousie. Nuance avec parano. De pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi, c'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie, c'est pas rien. Tu nous rends malade. Oh, quand le doute roule sur nos épaules, quand dans nos têtes il prend un rôle, c'est là que tu agis. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle. Elle est belle, te veux, je crois ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là. Jalousie.
Ben oui, je sais, Angèle, Jalousie, cet extrait de son premier album, Brawl. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de celui qui interprétait Rhino, le hamster du dessin animé Volt, ou la colère dans le dessin animé Vice et Versa.
Ah ça donne la frite.
Mais qui est donc cet invité colérique à poil? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, ben c'est votre portrait, mais...
À base de pop.
Et c'est signé Charline.
toujours pas mon nom. Aujourd'hui, nous recevons un réalisateur et comédien qui est fasciné chez le boucher par l'emballage du steak haché dans le papier blanc, qui peut porter des mocassins sans chaussettes et sans glands, qui pense avoir inventé une méthode inédite pour lasser les chaussures, tellement révolutionnaire qu'il porte donc des mocassins sans glands. Un homme qui voue un véritable culte à Step Brothers, à Will Ferrell, donc, et devant tout ceci à John C. Reilly, qui rêve souvent qu'il est dans un avion qui chute au-dessus d'un océan et qui s'immobilise brusquement à 10 mètres de la surface de l'eau. Il est aussi arachnophobe et phobique des bruits de bouche. Je suis dans votre équipe. Et puisqu'on parle d'équipe, de son propre aveu, il est aussi une brêle au foot.
C'est tout ?
Oui, bon, accessoirement, il est aussi Monsieur 3,7 millions, hein, le nombre d'entrées de son premier film solo, qui a probablement dû passer à 4, entre le moment où j'ai écrit cette phrase et le moment où je la lis. Chiffre réjouissant pour Le Grand Bain, une merveille de comédie douce, amère, sans armes, ni haine, ni violence, mais en speedo, et drôlement bien réalisée. Certes, c'est la moindre des politesses, mais le monde de la comédie gauloise est rempli de malpolis, faut le rappeler. Et accessoirement, Bis, c'est à mon humble avis l'un des comédiens à large spectre les plus passionnants. Spectre qui va du rugueux au tendre, en passant par le slacker, le romantique, le costaud, le nerveux, le vengeur. Il court au moins aussi bien que Tom Cruise. C'est dire le fragile, l'hilarant et même le gros con. Et voilà encore une nouvelle corde à son arc déjà bien plein de flèches. Dans Pupille, il est un assistant familial en charge d'un bébé, en tête penchée, assorti de rigueur, trop mignon. Pour toutes ces raisons, on est très content de recevoir Gilles Lelouch dans Pop, Pop, Pop.
Mm-hmm. Eh bien, dis donc, merci beaucoup.
Oui, on est content, ça fait trois fois qu'on dit qu'on est content.
Ah ben, moi donc.
Gilles Lelouch, vous êtes l'homme qui valait 3,7 millions d'entrées, bien évidemment. Je dis bien qu'il valait, car ça n'arrête pas d'augmenter. J'ai le compteur en temps réel sous les yeux. C'est impressionnant. L'homme qui valait 3,7 millions, ça vous va ?
Ouais, mais ça me va très bien, oui. Ça me va très, très bien. Oui, c'est un peu étonnant. Vous savez, c'est très compliqué pour moi de commenter les.
Non, mais alors, question très convenue, est-ce que vous vous attendiez à un truc pareil ?
Non. Alors, très honnêtement, non, parce que je me disais quand même, en étant un peu rationnel, ce que j'essayais d'être depuis le début de ma carrière, pour éviter les mauvaises et les bonnes surprises, il y avait quand même pas mal de facteurs qui faisaient que ce film n'était pas si populaire que ça. Si ce n'est que déjà par sa longueur, c'est une comédie de 2 heures.
Benoît Poulvorde.
Non, mais si on va par là, Philippe Catherine, Mathieu Amalric sont pas des têtes d'affiche de films populaires. Donc c'est quand même des gens qui sont habitués à un certain cinéma d'auteur, assez pointu. Et même le sujet, enfin, je veux dire, c'est un film quand même drôle et dépressif à la fois. Je veux dire qu'il y a une première partie assez, faut quand même s'accrocher un petit peu. Ouais. Donc j'étais, je suis très 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 heureux de ce qui se passe, moi. Je suis vraiment très heureux pour mes acteurs, très heureux aussi pour ces raisons que je viens de vous énoncer, que le film marche au-delà de ma propre satisfaction. Ouais.
Je suis heureux de vous voir heureux. Charline le disait, vous êtes un des comédiens dont le spectre va du rugueux au tendre, en passant par le slacker, le romantique, le costaud, le nerveux, le vengeur. Vous êtes lequel de tous ces adjectifs aujourd'hui, Gilles ?
Un petit peu tout ça à la fois, parce que je suis un être multiple,
bourré de contradictions.
Bah oui, enfin comme tout le monde, je crois, en fait. Oui, bien sûr. Et puis l'idée de faire ce métier, c'est aussi d'essayer de justement d'explorer avec plus ou moins de succès ou de réussite tous ces spectres-là, ouais, bien sûr.
Gilles Lelouch, vous êtes également un infidèle. Alors parlons clairement de culte sans tabou ici. Tout de suite, c'est l'heure de votre pop list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Mon chien stupide de John Fante, un livre de 1985, un des écrivains préférés de Philippe Dian, soit dit en passant. Charline, vous qui êtes la maîtresse d'un hamster libidineux, que pouvez-vous nous dire de ce chien stupide ?
Qu'il est énorme, obsédé, qu'il ressemble vaguement à un ours mal élevé, qu'il débarque un soir dans la vie de Henri, un écrivain raté, comme souvent chez Fante, qui ne supporte plus sa famille. Le film a d'ailleurs été adapté au cinéma par Yvan Attal et sortira a priori en octobre 2019.
Bien. Gilles Lelouch, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un court extrait, s'il vous plaît ?
Mais avec joie. J'avais deux théories pour expliquer l'inadaptation de Stupide. Selon la première, il avait certainement appartenu à une portée de nombreux chiots. Une dizaine de frères et sœurs, tous plus vigoureux que lui-même, si bien qu'à l'heure des repas, tous, sauf lui, avaient une mamelle à téter. Et il devait attendre que les autres fussent rassasiés avant de trouver un téton disponible. Mais sa mère avait alors épuisé ses réserves, ou bien elle en avait par-dessus la tête, moyennant quoi elle le rejetait. Je trouve qu'il y a une espèce de métaphore de la faiblesse humaine, de toute l'hypocrisie, de toute la bassesse humaine à l'intérieur de ce chien, que je trouve magnifique. C'était mon rêve de faire ce film. Je suis un petit peu triste que ce soit Yvan Attal qui le fasse, même si je sais que ça va être un magnifique film, surtout de le connaissant. Mais ouais, je trouve que c'est John Fante a un humour extraordinairement cynique, corrosif et très contemporain. Voilà, il y a quelque chose qui me réjouit dans ce livre.
C'est très très dur à adapter au cinéma.
C'est très, bah, c'est
pas
très
porter l'œil, mais ils sont nombreux à être quand même.
Ouais, mais c'est un enfer parce que de toute façon, Comment vous savez, c'est des bouquins, c'est un peu comme les bouquins d'Albert Cohen finalement, où il y a énormément de pensées. Comment traduire la pensée des protagonistes, quoi. Ça c'est extrême, c'est vraiment compliqué. Alors si c'est une voix off, surtout avec le chien, c'est un enfer.
Vous êtes sensible à l'écriture de John Fante?
Ouais, beaucoup.
Cette
beaucoup.
Simplicité,
au style,
enfin,
cette simplicité
apparente.
Bien sûr, j'adore. Je trouve ça. En fait, c'est des écritures.
Il y a lui, il y a Carver.
C'est des dialogues en fait. On n'est même plus dans de la littérature, on est dans du dialogue en fait, directement avec le lecteur. Et je trouve ça assez magique. Ouais. Je trouve qu'il y a un impact. Il y a un impact, comme c'est une espèce de puissance des mots, de l'idée qui va très vite. Mmh. Au même titre qu'il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle Aucune bête aussi féroce. Je sais pas si tu as déjà lu.
Edward Bunker.
Et c'est des phrases comme ça très courtes qui ressemblent. Chaque phrase est une punchline. C'est quand même assez incroyable. Il y a une espèce de créativité dans le choix des mots qui est folle.
Ok. Prochaine lecture. Continuons avec votre film culte. Ce film, c'est Outsiders de Francis Ford Coppola de 1983. Deux bandes s'affrontent. Les Greasers et les Sox, je sais pour qui votre cœur penchait, Charline, mais restituez-nous le film.
Les Greasers, évidemment. Le dis quand même. Bande à laquelle appartiennent Pony Boy, C. Thomas Howell, Soda Pop, Rob Lowe et Darrell, Patrick Swayze, des jeunes délinquants issus des quartiers défavorisés, accompagnés aussi de Dali, joué par Matt Dillon. Leurs rivaux sont donc les Sox, des fils de bourgeois, et après une bagarre violente, Pony Boy et Johnny tentent d'échapper à la police.
The Outsiders. This fall, S.E. Hinton's classic novel comes to the screen, capturing all the intensity, all the excitement, all the emotions of youth. The Outsiders, directed by Francis Coppola.
Alors, les Outsiders, bien sûr, mais quoi, Coppola, ça a été une des portes d'entrée pour vous dans le cinéma?
Ah, moi, c'est vraiment un de mes cinéastes préférés, ouais. Ça a commencé par Outsiders, ensuite j'étais absolument fasciné par Rusty James, qui est un des films plastiquement les plus longs que j'ai jamais vu. Enfin, une modernité, on le revoit encore aujourd'hui, c'est juste dingue. Et puis tout est beau, quoi. Tout est bon. L'histoire d'Outsider, c'est incroyable. Vous la connaissez ou pas? L'histoire, l'origine. En fait, c'était une bibliothécaire dans une lycée même, qui a demandé à ses lycéens quel était le livre qu'ils préféraient et quel serait celui qu'ils aimeraient voir adapté. Ils ont sorti Outsiders, qui était un hit de l'époque. Mm-hmm. La bibliothécaire de ce lycée a envoyé par hasard, en se disant bon, on va essayer. On leur a demandé aux lycéens qui voudrait adapter ce bouquin. Ils ont dit Francis Ford Coppola. Sur un coup de culot, elle a essayé de lui envoyer. Le fait est que l'assistant de Coppola s'est trompé de boîte aux lettres. Bref, c'est tombé directement, la lettre signée par 700 lycéens est tombée directement dans les mains de Coppola, qui a lu le livre, a adapté le bouquin, a fait le film, est allé à Cannes, a fait un succès immense et a fait l'avant-première avec tous les acteurs qu'on connaît, Tom Cruise et compagnie, dans ce lycée en question.
Génial.
Ben ouais, c'est magnifique.
Alors, Gilles Lelouch, pour la chanson culte, là, vous ne choisissez pas une chanson, mais un artiste, Prince. Tout Prince, n'importe quoi de Prince. Donc, j'ai choisi pour vous Girls and Boys,
parfait.
Prince, avec le groupe The Revolution. C'est extrait de l'album Parade en 86. It started raining, baby, the birds were gone. Oh, oh, oh. Love you, baby, I love you so much. Baby, baby, we can stay in touch. Baby, in another world. Vous êtes très belle, Gilles Lelouch.
Ouais, merci beaucoup, Antoine, c'est sympa.
Ce choix vous convient?
Ah ouais. Mais tout, je vous dis, tout Prince me convient. Mmh. Oh, les dernières années, peut-être un peu moins, mais il y a tout ce qu'il a fait, on va dire, jusqu'en 95, j'en suis dingue. Ouais.
Mais là, faut me dire pourquoi.
Parce que je sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour Prince. C'est le seul artiste que j'allais voir tout seul en concert. Mm-hmm. Vraiment tout seul. Donc, j'avais besoin de personne. J'étais juste fasciné par sa créativité, son son. Voilà, quand il a début des années 80, j'ai vu Purple Rain en VHS, encore une fois. Et j'ai pris une claque inouïe, quoi. C'est pour moi une sorte de Mozart de la pop culture, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il est allé se balader dans tellement de genres différents, que ce soit le funk, le rock, les ballades, même la country. Enfin, je veux dire, c'est un type qui est quand même, qui était pour moi la définition même de l'immense talent, quoi, d'une espèce de créativité sans limite. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment impressionnant.
Vous êtes précipité sur l'album qui vient de ressortir, ces démos seul au piano?
Non, je l'ai pas encore écouté.
Bah alors.
Je sais. On m'en a parlé beaucoup, mais j'ai pas encore eu le temps de l'écouter. J'ai
Père
le temps
Noël.
De pas grand chose. Père Noël, j'espère.
Père Noël.
Même ses concerts, c'était quand même un type qui réussissait à faire trois concerts dans la même nuit.
Ouais.
de 3 heures. Enfin, je veux dire, c'est fou.
Bien, terminons cette pop liste avec votre série culte. Et cette série, c'est The Office, créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant en 2005. Les joies de la vie de bureau. Charline, vous qui avez tant de joies à partager mon bureau, racontez-nous.
Mon plaît. Plaisir est d'ailleurs lié au fait que je vois en vous un David Brent, le héros de la version anglaise, patron d'une petite entreprise de papeterie. Bienvenue dans un univers cruel et triqué qui a érigé l'échec personnel en discipline de vie. Voici un discours de motivation du patron.
And if you have lost both legs and both arms, just go, at least I'm not dead. I'd rather be dead in that situation, to be honest. I'm not saying people like that should be, you know, put down.
Alors Gilles Lelouch, on parle de la version, la version anglaise ou américaine?
Moi, je préfère la version américaine. Je vais me faire tuer.
On peut refaire le lancement en disant Michael Scott à la place de David Brent et Steve Carell à la place de Ricky Gervais.
Non, Ricky Gervais est extraordinaire, mais moi j'ai une passion pour Steve Carell. Voilà. Je trouve que c'est un génie aussi.
Et The Office, qu'est-ce qui vous a amusé tellement dans The Office?
C'est une succession de personnages médiocres. Moi, ils me font tellement rien. Et puis lui, qui essaie absolument de se faire passer pour un patron formidable, proche de ses employés, alors que c'est une espèce de fou dangereux.
Se concentrer de bassesse humaine dont vous parliez avec mon chien stupide.
Ouais, mais moi, je trouve que c'est là qu'il y a le plus grand, le plus beau terreau pour la comédie, pour la création, pour les personnages, en fait. C'est l'espèce de gens qui essaient de faire mieux que ce qu'ils sont. Je trouve ça passionnant. Puis les gens abîmés, quoi, en fait. Les gens parfaits m'emmerdent, en fait, en vrai. Voilà.
Dites pas ça en me regardant. Je résume. John Fante, Francis Ford Coppola, Prince, The Office. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
And if you have lost both legs and both arms,
meet me at another world.
Just go, at least I'm not dead.
Une dizaine de frères et sœurs, tous plus vigoureux que lui-même, si bien qu'à l'heure des repas, tous sauf lui avaient une mamelle à téter.
This fall, S.E. Hinton's classic novel comes to the screen.
Faire l'amour, nous rencontrons.
Lors de sa venue ici, Jean Dujardin était fasciné par mon mixeur de pop culture. C'est vous, ça vous fait quoi d'entendre cette tambouille?
Moi, je trouve ça formidable, mais là, je suis un peu au bout de ma vie, j'ai pas envie de commenter ça.
Bien, on continue à popper en compagnie de Gilles Lelouch dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau de NTM, That's My People, dont le clip a été réalisé par un certain... Attendez, je regarde mes notes. Gilles Lelouch.
Eh oui.
Un homonyme peut-être.
Non, c'était bien moi. C'était pour moi la consécration à l'époque où je faisais des clips, réaliser le clip d'NTM, c'était waouh.
Vous étiez tout gamin.
J'avais, je devais avoir 26, 27 ans. Ouais.
On écoute ça puis on commente après.
Avec joie.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs, pouvoir faire de la musique. En gardant mon éthique, faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou, mais c'est comme ça. Je me nourris de ça, j'ai besoin de ça. Mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas, et puis quand c'est pas, pour finir léché. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable, mais c'est pas grave. J'aime le challenge, porter le maillot, frapper du le son de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compas. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mes kiffs, c'est de chiller, rester tranquille. Au sein des miens, me laisser aller, à le déballer. Les conneries parlent, juste pour parler. Pour faire le monde avec notre vision décalée. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle le nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe le mic. Je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, mais déterminé à ne jamais vraiment lâcher la.
Qu'est-ce que tu peux faire?
Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, du gêné, juste un lyrique qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé.
My people.
d'excuses au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. Ouais. C'est vrai, je me sens rassuré. Ouais. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder 12 mois par an, comme l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont tibas. Ou bien c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Mon genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné,
NTM dans Pop 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 sur France Inter avec le morceau That's My People, dont le clip a été réalisé, je le rappelle, par Gilles Lelouch, notre invité d'aujourd'hui. Comme c'est dingue.
Eh oui.
Comment ça s'était passé cette histoire?
Eh bien en fait, dans les années 90, donc dans un autre siècle, je réalisais des clips et j'ai commencé en faisant de la pop de base, c'est la variété française, et puis mon cœur allant vraiment vers le hip-hop, j'ai essayé d'incliner ma carrière vers ça, et puis j'y suis arrivé avec mon ami Tristan avec qui je co-réalisais. Et voilà, on a commencé avec MC Solar à faire du rap, et puis bon an mal an, on est arrivé jusqu'à NTM, ce qui à l'époque était vraiment la consécration ultime, quoi.
Ouais.
Étonnamment, vous n'avez proposé le speedo ni à Kool Shen ni à Joey Starr.
Non,
pour le grand
j'ai pas eu le. Non, j'ai pas eu trop le courage.
Le speedo du grand bain. Bon, c'était.
Non, il faut dire qu'à l'époque, ils étaient quand même assez costauds. Je me souviens que j'allais les chercher en loge. Il y avait les carloges. Ils étaient avec des. Je sais pas. Ils étaient 20. Avec des pitbulls et regarder des films porno, donc c'était un peu l'ambiance était pas super fun.
Et des clips, vous en avez réalisé pour Danny Briand, Pascal Obispo, MC Solar, comme vous venez de le rappeler, et d'autres, mais vous n'êtes pas invité du Hit Machine aujourd'hui, Gilles Lelouch. Non, vous êtes l'invité de Pop 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 pour nous parler du film Pupille, réalisé par Jeanne Herry. Alors avant d'en parler, juste un mot sur le grand bain quand même, dont vous dites que c'est la première fois que vous avez réussi à faire quelque chose qui vous ressemble à 100%. Est-ce que ça a fait bouger quelque chose en vous qui aura une incidence sur vos futurs choix de cinéma? Autrement dit, est-ce qu'il y aura un avant et un après Grand Bain?
Oui, fatalement, oui, bien évidemment.
Je ne parle pas commercialement.
J'entends bien. Ben, en fait, là, j'étais censé tourner des choses début 2019 et puis j'ai tout annulé en fait, parce qu'en fait, ça donne ni plus ni moins du courage.
Ouais.
Voilà. Donc, on a toujours, quand on est acteur, on a toujours peur de pas être dans le coup, de se faire oublier, de pas faire suffisamment de succès ou pas suffisamment de bons films qualitatifs, de pas aller explorer assez de voix. Et le succès de mon film me donne le courage simplement de me mettre un peu en jachère et de me poser, de réfléchir à ce que je vais faire, comment je vais le faire, ce que je vais écrire. Et voilà, j'ai envie de prendre une grande pause. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment envie de prendre une grande pause et de prendre beaucoup de recul, voilà, pour pas faire n'importe quoi, justement.
Et aussi, le grand bain, même si vous n'y apparaissez pas, a changé le regard qu'on porte sur vous. C'est-à-dire qu'en portant, vous, ce genre de regard sur les masculinités, vous vous imposez comme un héros sensible potentiel.
Eh oui, mais... vous savez, c'est toujours étonnant, parce que c'est comme les gens qui me disaient, mais c'est marrant, je m'attendais pas du tout à ça de toi. Je me disais, mais vous pensiez que j'allais faire quoi, un film de kung-fu? Enfin, non, mais c'est quand même très étonnant, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai le sentiment que la fibre, on va dire, sensible, entre guillemets, j'ai l'impression de l'avoir déjà... j'ai flirté avec déjà pas mal de fois dans pas mal de rôles même, mais voilà, il fallait peut-être simplement une entité plus forte, quelque chose de plus impactant. Donc le grand bain, c'est le cas. Ouais.
Pupille, c'est l'histoire de Théo qui est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance après un accouchement sous X. La mère a 2 mois pour revenir sur sa décision ou pas. Bande annonce.
C'est un petit garçon. Vous voulez le voir? Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi.
Faut continuer à bien boire, tu sais, hein, pour prendre du poids.
Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo.
Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est bon moment pour elle, je le sais.
Je me sens carrément prête.
Dans Pupille, Gilles Lelouch, vous êtes Jean, un assistant familial qui s'occupe du petit Théo entre sa naissance et le moment où il sera recueilli par sa mère adoptive, joué par Élodie Bouchet.
Un personnage et une profession faite d'abnégation, qui plus est dans ce film, puisque cet homme doit s'occuper de l'éveil d'un nourrisson avant de devoir s'en séparer, hein, par nature, c'est la profession qu'il exige. Est-ce que vous l'avez envisagé, même si le terme est peut-être un peu fort, comme un rôle tragique ?
Non, je l'ai envisagé comme un magnifique rôle, surtout. J'ai surtout je me suis surtout dit que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance que Jeanne-Héry pense à moi pour ça. C'est-à-dire que je me suis dit, pourquoi moi ? On est 10 000 acteurs, pourquoi moi ? Tellement ce rôle est magnifique.
Vous avez eu la réponse ?
Non, toujours pas. mais ça me va, ce mystère-là me va bien. Mais c'est vrai que c'est pour être très honnête avec vous, c'est la première fois que je pleure en lisant un script. J'ai trouvé ce film d'une beauté et surtout d'un espoir incroyable. C'est-à-dire que on flirte avec une réalité sublimée, parce que la réalité de l'adoption, elle n'est pas toujours aussi joyeuse et pas toujours aussi gaie, c'est une évidence. Mais le film ouvre des portes et une joie incommensurable. Voilà, c'est vraiment un film magnifique. Voilà, je sais pas comment vous dire mieux que ça. J'ai trouvé que Jeanne-Héry avait fait un travail de documentation de précision chirurgicale sur les professions de tous ces gens dont j'ignorais absolument l'existence. Je sais pas pour vous, mais moi je ne savais pas qu'il y avait comme ça une chaîne humaine qui se mettait en branle à partir du moment où un enfant a été abandonné. Et je trouve ça, je trouve que ça rend toutes ces lettres de noblesse à une certaine administration, à des fonctionnaires qu'on vilipende un peu trop souvent. Et pour le coup, c'est un film qui donne envie de payer des impôts. Voilà. Donc, rien que par ce principe-là, je trouve que c'est assez utile.
Non, mais
c'est
vrai.
Sur l'affiche. C'est vrai, c'est vrai.
Gilles Lellouche, dans Pupille, Jean, votre personnage, a tout du mari idéal. Il sait s'occuper des enfants, il fait la cuisine, la vaisselle, les lessives, le ménage, ne se préoccupe que du bonheur de sa femme. C'est un rôle de composition, bien sûr.
Je suis assez idéal, vous savez. Probablement, oui.
Mais encore une fois, vous déjouez une certaine idée de ce que devrait être un bonhomme, d'après les manuels zémouriens. Celui-là, ça donne effectivement à toutes ses activités dites ménagères sans se départir de sa virilité. On ne peut pas dire que ce genre de personnage soit légion sur grand écran. Alors, sans aller jusqu'à parler de militantisme, est-ce qu'accepter ce genre de rôle, c'est une forme d'engagement ?
Oui, enfin non, je trouve que c'est même pas de l'engagement. Je trouve que c'est absolument normal, en fait. Je pense
qu'on n'en voit pas si souvent.
Non, on n'en voit pas si souvent, mais en fait, c'est un rôle écrit par une femme pour un homme, donc c'est une autre vision. J'espère aussi que les hommes sauront écrire des rôles d'hommes aussi dans cette lignée-là. Donc heureusement, on avance dans le bon sens, dans la bonne direction, j'estime, je crois.
Vous êtes admiratif du choix de la réalisatrice, Jeanne-Héry, de mettre un sujet comme ça en lumière. C'est audacieux quand on connaît la difficulté pour monter un film aujourd'hui, de choisir des sujets aussi pointu.
Ouais, oui, c'est très audacieux et en même temps je comprends pourquoi elle fait ça parce qu'il y a un sujet de cinéma. C'est pas simplement
il y a un sujet de cinéma, puis il y a une histoire universelle.
Et puis il y a une histoire universelle et c'est pas simplement le désir de mettre en lumière une fonction inconnue, c'est l'idée aussi de faire presque un thriller sentimental, c'est-à-dire comment un enfant comment le désir d'être parent peut être assouvi par le choix d'un enfant abandonné, qui décide, qui comment, qui où, les dossiers qui s'entassent, les décisions qui sont que de l'humain, donc l'humain avec tout ce que ça comporte d'erreurs, de jugements, etc. Et c'est effectivement très cinématographique, voilà, aussi. Ce n'est pas que documenté, quoi.
Vous avez rencontré des familles, des éducateurs pour préparer le rôle ?
Je les ai rencontrés sur le plateau. J'ai rencontré le Jean, celui que j'incarne, oui, qui est un type formidable. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose quand même d'assez incroyable là-dedans. C'est que c'est une dévotion. C'est que généreux, en fait. C'est que généreux parce qu'en fait, vous n'avez. La satisfaction que vous avez, elle est quand même très confrontée à la douleur que vous portez. Puisque, comme vous l'avez dit, vous vous occupez d'un enfant pendant 2 mois, oui, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis cet enfant part fatalement. Donc c'est autant de déchirures dans votre vie et cet homme-là, on a eu une quinzaine à son actif. Moi je trouve que ce sont des saints en fait.
Nous sommes en train de parler de Pupille, le nouveau film de Jeanne-Héry avec aussi notamment Sandrine Kiberlin. Citons-la, mais je vous propose de faire une petite pause dans cette conversation puisque vous savez faire plein de choses, mon cher Gilles. Est-ce que vous savez faire ça ?
Bah oui.
Bah il sait le faire.
Bah, il sait le tout faire.
Bah,
bravo.
Bah quoi ?
C'est juste pour lancer des pop news.
Eh, bah, super. Ghost my heart.
Ghost my heart. Un super-héros d'un nouveau genre bientôt sur les écrans. Il s'appelle Clotaire Sangala, c'est son nom au civil, et il revient dans son pays natal, en Afrique. Un homme élevé par un grand-père chinois, expert en arts martiaux. Il est persuadé d'avoir été trouvé dans une poubelle, et Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents, mais il va devoir assumer son héritage.
Papy !
Je crois en toi.
C'est vraiment dommage !
Tu es l'héritier des pouvoirs du serpent jaune. Ta force ne connaîtra plus de limites. Qui es-tu ?
Je suis Black Snake !
C'est quoi Black Snake ?
Ça signifie le serpent de couleur noire. Ah. Parce que vous voyez en anglais l'adjectif.
Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue.
Quand l'ennemi est encore là, Black Snake se doit de continuer.
Toi et moi, on a...
Ta gueule !
Reste courtois ! On passe tout sur la gueule, mais dans le respect.
Black Snake, la légende du serpent noir 2 et avec Carole Rocher et Thomas Gijol, ce sera le 20 février au cinéma.
Gilles, on vous sait désormais fan de Prince, et nous ici dans Pop Pop Pop, nous sommes fans de Chiqui Flute, cette chaîne YouTube saccageant allègrement des morceaux à la flûte et au kazoo. Le lien entre les deux, le voilà, ne me remerciez pas. C'est magnifique. Où est-ce que vous avez trouvé ? C'est extra.
Oh le carnage !
Oh le carnage ! C'est magnifique !
Je vous laisse repartir avec si vous voulez.
Ah, je vais l'avoir en tête, c'est magnifique. Comment passer une bonne journée. When Doves Cry, Chiqui Flute. Et voilà, c'est sur la chaîne Chiqui Flute.
Tout à fait. Hein ?
Comment ça s'appelle ?
Chiqui Flute.
Chiqui Flute.
Oh, c'est une chaîne YouTube, il y en a toute une flopée.
Ah, c'est magnifique.
C'est magnifique.
Ah, je connaissais pas.
Et bienvenue dans le monde impitoyable des concours de beauté impitoyable. Si on n'a pas le format Miss, et c'est le cas de cette héroïne.
My name is Willadane Dixon.
Hey, Willadane.
Hop off.
Most people call me Will, except for my mom, who calls me
Dumplin'. I can't be late. This cannot exactly drive itself.
Being a bit of a celebrity around here meant that she was too busy for me.
You've got a hole in your left, by the way.
What? Oh, she didn't listen to me.
Willadane Dixon, adolescente en surpoids qui vit avec sa mère, ancienne reine de beauté, qui la surnomme donc Dumplin', soit bah, ravioli. Une mère devenue organisatrice de concours, elle est jouée par Jennifer Aniston, et pour la défier, sa fille va se présenter, suivie par d'autres adolescentes du coin, ce qui va sacrément mettre la zone dans le petit monde des reines de beauté. Ça s'appelle Dumplin'.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi. Merci, Gerline.
Je vous en prie.
Je fais ma voix d'homme.
C'est pas mal.
À l'ancienne.
Mm-hmm. Bien, avant de continuer à parler de pop, de culture et de pop-pop culture, dans la suite de l'émission avec Gilles Lelouch, faisons un petit détour par l'Angleterre de Jonathan Jeremiah, mon chouchou du moment, pour écouter ce morceau Good Day.
I see the kids, them running on by. The summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. Yeah, busy bee watching the world singing. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. On the ninth street with the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. Watching the world singing.
This is how it feels when a good day comes along.
on the ninth street. Soon we'll be back on track. Knock, knock for Reuben. Come and kill some time on the heron crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, well, haven't you heard?
Yeah. This is how it feels when a good day comes along. This is how it feels when a good day comes along. This is how it feels when a good day comes along. Yeah, this is how it feels. This is how it feels. This is how it feels when a good day comes along.
Good Day, morceau du chanteur anglais Jonathan Jeremiah. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon, comme le fait si bien Gilles Lellouch. Gilles Lellouch, qui est notre invité aujourd'hui pour parler de Pupille, le film de Jeanne Herry. Pupille, c'est un pari sur le collectif, hein, et sur l'entraide, un peu comme vous l'avez fait d'ailleurs avec Le Grand Bain. De toute évidence, ce sont des films dont tout le monde a besoin aujourd'hui. On a besoin d'un cinéma qui parle du monde, qui réconforte.
Bah, on a surtout, oui, évidemment, puis on a besoin d'un cinéma qui soit un peu tourné vers l'humain, ce qui est de moins en moins le cas, il me semble. Donc, non, parce que c'est vrai, on a de plus en plus de films de super-héros vulnérables avec des pouvoirs complètement débiles. Mmh. Autrement, on a des comédies avec des stéréotypes de bande dessinée. Donc, oui, des films adultes aussi. Voilà, des films un tout petit peu adultes qui soient
qui prennent en considération l'intelligence du spectateur.
Ouais, c'est ça, qui prennent en considération. Oui, puisqu'on sait tellement bien le faire sur les séries maintenant, par exemple. Mm-hmm. Donc effectivement, il était grand temps que le cinéma se repose des questions quant à sa narration, ses personnages, et que on fouille des sujets de façon un peu plus approfondie. Le film de Jeanne en est l'exemple parfait, c'est-à-dire que c'est un film très adulte et en même temps qu'il y a des qui a une vertu pédagogique et qui en même temps est un film de divertissement.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas non plus un film relou, prise de tête, où on se dit quoi je suis. C'est quelque chose de très beau, quoi, de très. Et je crois qu'effectivement, on est dans une espèce de moment un peu particulier. On est, je crois, tous un peu seuls. Donc ça fait beaucoup de bien de voir des films sur le collectif, sur l'entraide, sur des gens qui se parlent autour d'une table, qui s'engueulent même, mais qui se parlent. Et on a de moins en moins affaire à ça, en fait, en vrai.
Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce sont des films à la fois sans cynisme et sans overdose de bons sentiments. Ce qui est un équilibre un peu compliqué,
oui,
toujours.
Oui, c'est pas du tout mièvre, c'est pas mielleux. Ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu être le grand piège de ce film-là, ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais.
Je voulais vous parler des réactions, en fait, qu'elles soient de spectateurs ou des critiques. Est-ce que vous y prêtez attention? Parce qu'on a pu remarquer que vous étiez très actif, notamment sur Twitter, et que vous interveniez volontiers dans les conversations qui parlent de vous ou de vos films.
Oui,
non. J'ai lu quelques passes d'armes assez savoureuses.
Je pourrais les effacer. Je peux pas m'en empêcher comme un con que je suis. Non, mais en fait, c'est pour ça que je me méfie beaucoup des réseaux sociaux. Je me méfie de mon impulsivité, en fait. Normalement, je réponds pas. Mais sur mon film, faut pas me faire chier.
Ouais, voilà. J'ai vu.
voilà. Mais c'est pour ça que j'y vais. Je me méfie énormément de ça parce que ça joue des tours terribles et puis j'ai passé l'âge. Merde.
Mais vous prêtez attention quand même aux réactions.
Mais évidemment que je prête attention. C'est quand on fait. Vous savez, quand on travaille 5 ans sur quelque chose. Le type qui vous dit, mais moi les critiques je les lis pas, mais je m'en fous, je suis au-dessus de ça. J'y crois pas une seule seconde. Voilà, je n'y crois pas une seule seconde.
Pas une seconde, évidemment. Tous les gens qui font cinéma lisent toutes les critiques, le moindre mot.
Évidemment.
Et le moindre mot blesse,
bien évidemment.
Y compris un compliment mal tourné.
C'est ça le pire, qu'on a tendance à cristalliser sur les mauvaises critiques et oublier les bonnes. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne.
Pareil. Bien, on sait que le cinéma est une...
Vous êtes sensibles tous les deux. Hein.
Mais c'est un moment de très grande sensibilité.
Mais non, j'imagine.
C'est comme un abaissement. C'est un moment où on se libère d'un projet qui a mûri des années.
Mais c'est comme dire à une mère que son enfant est moche. J'entends bien le...
Exactement.
Voilà, exactement.
Bon, on sait que le cinéma est une grande famille, mais vous, avec Guillaume Canet, Alain Attal, Hugo Sélignac, vos producteurs, vous avez constitué votre propre famille. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une famille de cinéma? Comme toutes les familles, d'ailleurs.
Non, j'y vois que des avantages, en fait. parce que du coup il y a une espèce de confiance absolue, il y a une ça va vite, il y a pas besoin de se rassurer pendant des semaines et des semaines, il y a pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment, ce qui pourrait être aussi être un inconvénient, mais moi j'aime l'idée parce qu'en fait on est tellement amis, on se connaît depuis tellement longtemps que on prend peut-être trop de raccourcis. Il y a certains artistes, j'imagine, qui seraient qui seraient un peu choqués même de voir la façon dont on peut se parler. Mais moi, je prends ça comme un avantage, en fait. J'estime que plus on avance dans nos carrières et dans nos âges, plus les gens prennent des gants. Enfin, en tout cas, ils prennent même plus de gants, vous disent rien. Enfin, c'est très compliqué d'avoir un avis tranché, d'avoir un véritable avis en face de soi. Les gens vous disent plus rien. Vous êtes dans une espèce de vous êtes un petit peu isolé dans votre coin. Donc, moi, je suis content d'avoir des gens avec qui je peux m'engueuler, dire des choses de façon très frontale.
Ouais. Et on note aussi dans votre filmo beaucoup de participation à des films de groupe, que ce soit du sens de la fête, de l'amour est une fête. On sait que et la suite des petits mouchoirs arrive. À quand le prochain film Lelouch Centric?
Je sais pas trop parce que. Pour être très honnête avec vous, ça m'intéresse de moins en moins. Ouais. Non, mais j'aime l'idée. En fait, je ne prends aucun plaisir à faire les choses tout seul. Ça m'intéresse pas tellement. J'aime l'idée de partager le tournage, de partager le succès ou l'insuccès de ce tournage. Mais j'ai jamais eu pour ambition d'avoir mon nom plus gros que celui du titre du film. Voilà. Je suis pas là-dedans. J'ai jamais été comme ça et je crois pas que je vais le devenir. Donc, plus j'avance, moins j'ai envie d'être le centre d'un dispositif, le centre d'un voilà. J'aime bien l'idée du collectif de plus en plus.
Bien, Gilles Lelouch, j'attends la livraison du Magnéto, le grand n'importe quoi d'Alexandre Verret, et je vais aller voir à la cave s'il est arrivé. Allez. Oh, mais ça glisse là! Oh, mais c'est un toboggan! Oh, oh non! Oh, bah d'accord, de mieux en mieux. C'est livré sur un canard en plastique maintenant. Ouais, mais je vois, merci monsieur. Ou madame d'ailleurs, allez-y.
Madame, monsieur, ah, madame, autant pour moi.
N'importe quoi.
Lundi 8 octobre 6492. Après avoir fait un voyage de 5 années-lumière, nous arrivons enfin sur cette fameuse planète Terre. Mais c'est curieux. Il n'y a personne et ça pue la mort. Mais où sont donc passés ces crétins d'humains ?
Ping-pong, circulate !
N'importe quoi, n'importe quoi !
J'ai fait tantan sur des boîtes de cassoulet. J'ai fait tantan sur des bidons de lessive. J'ai fait tantan sur des brocolis. Et ensuite ils m'ont viré dans tout le marché. Aucun humour les mecs, aucun.
Over. Merci Alexandre Ferret, merci beaucoup.
D'accord.
Gilles Lelouch, le petit Marcel Blanc, la chaîne en or, le bandana que je porte noué autour de la tête, doivent vous donner quelques indications sur le morceau que nous allons écouter avant de nous quitter, non ?
Générique de l'agence Tourisque ?
Pas du tout.
Marcel Blanc, bandana autour de la tête.
Mm-hmm.
Eh ben, on va dire Tupac.
Pas très loin, c'est Dr. Dre avec Snoop Dogg.
Hey.
Still Dre.
Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga, guess who's back? Still doing that shit, Andre?
Oh, for sure.
Yeah.
Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown up like
fly, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. You ain't up on things.
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends.
Well, hell,
me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. Even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give
to the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch,
yes.
Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still hitting them corners and them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back.
So if you ain't up on things,
Dr. Dre be the name. Still running the game, still got it wrapped like a mummy. Still ain't trippin', love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regards.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners and them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners and them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners and them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air. Boy, use a fool, D.R.
Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous laisser ici, symboliquement?
Ah, une bouteille d'alcool et un paquet de cigarettes.
Mm-hmm.
Ce qu'on fait de mieux, non?
Je croyais que vous aviez arrêté de fumer.
Mais ça va pas la tête.
Ah bon?
Pas du tout, du tout.
Je croyais que vous aviez arrêté de boire.
Mais pas la tête non plus. Mais encore moins.
Bon, bah écoutez, je vous les garde.
Voilà. Il y a un morceau d'Oasis qui parle de ça, qui s'appelle Cigarette et un alcool. Mm-hmm. Ça peut être ce morceau-là, voilà.
Ok, parfait. Bah, je prends tout. Je prends la bouteille, je prends le club et je prends
et
le morceau d'Oasis.
Et les frères Gallagher.
Super. Merci, Gilles Lelouch.